que le banquet commence.
Eh ben allons-y !
Salut mes petits amis du 21e siècle.
Voulez-vous nous faire l'honneur de vous joindre à nous ?
Puisque je suis obligée d'être là, j'espère qu'on va devenir amis et...
Votre âme, s'il vous plaît.
Dracarys.
You are a nerd.
Ouais, c'est pas faux.
Nom de Dieu !
Écoutez Sonia et Elodie
dans l'émission Loading
sur Radio Campus 3.
Oupinez.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading. C'est le jeudi en direct, 20h-21h, en rediffusion le vendredi 13h-14h et le dimanche 18h-19h. Bonjour Elodie.
Bonjour Sonia.
Comment vas-tu?
Écoute, je suis un peu malade, peut-être ça s'entend.
Ça s'entend un petit peu.
Et voilà, je m'excuse par avance, je risque de tousser un peu. Mais je suis quand même là et on va vous parler de plein de geekeries, encore une fois.
Eh bien dis-nous, qu'avons-nous au sommaire de cette émission?
Eh bien on va commencer avec les sorties jeux vidéo, ensuite on parlera d'un... Je sais pas comment appeler ça, un jeu de cartes. Puis de forum roleplay, ensuite on parlera de bande dessinée avec une BD que tu m'as offerte.
Ah oui.
On enchaînera ensuite avec l'actualité cinéma, série et la petite rubrique l'histoire d'un jeu vidéo.
Oui, c'est ça, l'histoire d'un jeu vidéo des années 80, toujours avec un petit blind test.
Et on finira avec une série japonaise qui n'est pas pour les enfants, du tout.
Ok, très bien. Et bien, c'est parti pour cette heure d'émission. Dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 26 mars de South Park Snow Day, disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Switch. C'est développé par Question, édité par THQ Nordic. C'est un jeu d'action-aventure. Rejoignez Cartman, Stan, Kyle et Kenny dans un univers en 3D et célébrez le jour le plus magique de la vie d'un jeune enfant, un jour de neige. Un immense blizzard a plongé la ville dans le chaos et surtout provoqué la fermeture de l'école. Jouez avec jusqu'à 3 amis, utilisez le matchmaking ou encore jouez en solo avec des bots alliés et frayez-vous un chemin à travers les rues enneigées de South Park. Participez à des combats frénétiques contre des factions en guerre dans cette nouvelle histoire dans laquelle c'est vous qui fixez les règles. Équipez des armes uniques et déployez des compétences spéciales dans une aventure pour sauver le monde et profiter d'un jour sans école. South Park Snow Day, c'est disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Switch. La sortie le 28 mars de Paper Grinder, disponible sur PC et Switch. C'est développé par RH, édité par Devolver Digital. C'est un jeu d'action plateforme en 2D, incarné une jeune pirate nommée Pepper, armée de son fidèle Grinder, une foreuse à la puissance destructrice. Après avoir été victime d'un naufrage et du vol de son trésor, Pepper doit utiliser son arme afin de récupérer ce que les redoutables Gnarlings lui ont dérobé. Armée de Grinder, Pepper creuse à travers la terre et l'eau, contrôle des machines et pulvérise tous les ennemis qui lui barrent le chemin, menant à sa fortune disparue. Traverser un monde animé et coloré avec une mécanique de forage fluide et des sauts improbables, frayez-vous un chemin et trouvez de nouveaux forêts afin de semer le chaos et de résoudre d'ingénieux casse-têtes. Paper Grinder, c'est disponible sur PC et Switch. Et enfin, la sortie le 28 mars de Open Roads, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. C'est développé par Open Roads Team et édité par Annapurna Interactive. C'est un jeu d'aventure enquête. Tess et sa mère Opal découvrent un paquet de vieilles notes et de lettres bien cachées dans leur grenier. D'anciens secrets de famille, des cambriolages datant de plusieurs décennies et un trésor perdu du côté de la frontière canadienne y sont évoqués. Elles embarquent alors dans un road trip lors duquel elles vont explorer plusieurs propriétés familiales abandonnées depuis longtemps et ainsi faire ressurgir le passé. Elles vont fouiller ces lieux en ruines où sont enfouis de vieux souvenirs, des choses que Opal essaie d'oublier depuis des années. Au fil de cette quête, plus que les secrets qu'elles recherchent, c'est elles-mêmes qu'elles vont apprendre à découvrir. Open Roads, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Voilà pour l'actu jeu vidéo. On passe à la musique et ensuite, Elodie, tu nous parles d'un jeu de plateau.
Jeu de cartes.
Jeu de cartes.
Ouais.
D'accord.
Après, on a chacun notre petit plateau, quelque part.
Ok.
On en reparlera plus après.
Voilà. On écoute un petit No Doubt avec Ex-Girlfriend. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading, en direct le jeudi, en rediffusion le vendredi et le dimanche. Et on passe maintenant, eh bien, au jeu que tu nous proposes, Élodie.
Oui, te souviens-tu de Seven Wonders ?
Oui, je me souviens de Seven Wonders.
Oui, on y avait joué ensemble. Tu as trouvé que les règles, c'était un peu long quand même pour pouvoir jouer. Mais bon, il faut les connaître. Mais c'est un jeu qui est très bien.
Très bien.
J'ai déjà parlé aussi de pas mal d'extensions qui accompagnent Seven Wonders. Il y a un Seven Wonders Duel aussi auquel on a, il me semble, joué lors d'une soirée jeu. Et là, maintenant, il y a Seven Wonders Architect.
Qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, les joueurs vont s'affronter pour devenir un leader du monde antique en achevant une merveille architecturale qui traversera les âges. Finalement, on reprend ce que l'on connaît de Seven Wonders, hein. Ce sont les sept merveilles du monde. Donc là, vous allez devoir, tout comme dans Seven Wonders, collecter des ressources pour construire votre société, développer votre puissance militaire pour gérer les conflits, superviser la gestion des ressources et rechercher des améliorations scientifiques, et puis collecter des points de victoire. En tant que l'un des grands architectes de l'Antiquité, votre objectif est de créer une merveille si étonnante qu'elle vous fera entrer dans l'histoire comme un témoignage historique de l'ingéniosité et de l'habileté humaine. Une partie de Seven Wonders Architects se déroule en une succession de tours de jeu. À votre tour, vous allez pouvoir choisir une carte parmi trois. Ces cartes représentent différents personnages qui vous aideront à rassembler les ressources pour construire votre merveille, ou faire des découvertes scientifiques, ou même livrer bataille à vos voisins. Et donc en fait, ces trois cartes, vous allez avoir, les joueurs vont se mettre en rond, de chaque côté d'eux, ils vont avoir un tas de cartes dans lesquelles ils peuvent effectivement piocher, et il y a aussi une pioche au milieu. Et il me semble que certaines cartes sont visibles, et d'autres sont face cachée. Donc vous allez pouvoir avoir tout un tas de ressources et autres, et la partie prendra fin lorsque une des merveilles sera entièrement construite. Et il faudra avoir les points de victoire pour savoir qui a gagné, parce que la merveille rapporte évidemment des points de victoire, mais il n'y a pas que ça. Et j'ai adoré cette version de Seven Wonders, parce que on retrouve toute l'essence de l'univers du jeu de base et également des extensions qu'on peut trouver avec. Mais c'est beaucoup plus accessible. Là, les règles, on n'a pas besoin d'une demi-heure à expliquer des choses. C'est vraiment beaucoup plus simple. Et c'est en même temps un petit peu différent. La partie ne se joue pas tout à fait pareil. Le Seven Wonders classique, c'est ce qu'on appelle un deck building, où on se passe en fait un paquet de cartes de joueur en joueur et on garde une carte dans la main à chaque fois pour essayer de construire son deck, et on fait ça suivant trois phases, il me semble. Là, c'est pas tout à fait ça. Là, vous allez avoir directement des cartes que vous allez pouvoir piocher. Et il est beaucoup plus simple à expliquer. Du coup, beaucoup plus de plaisir à jouer immédiatement. Et les durées de partie durent environ 20 minutes.
Ah oui, c'est
court. C'est moins de 30 minutes. Ce qui fait que, on a très envie de rejouer et d'avoir sa revanche. Donc, on peut refaire derrière une petite partie, maintenant qu'on a bien compris comment ça fonctionnait. Et donc, même si ça paraît simpliste, c'est pas non plus un Seven Wonders pour débutants pour autant, parce que c'est vraiment c'est pas la version facile non plus, c'est vraiment une nouvelle proposition de ce jeu, qui se joue un petit peu différemment. Et puis, le matériel et l'édition sont vraiment très beaux. Vous allez avoir vraiment votre petite merveille à construire, en fait. Alors, c'est sympa, ils ont mis... En fait, chaque fourniture pour chaque joueur est dans une petite boîte déjà toute prête. Et votre merveille va être déjà sous forme de... comment est-ce qu'on appelle ça ? D'échafaudage.
D'accord.
Et vous allez retourner, ce qui va vous donner au fur et à mesure la merveille, et qui va vous donner aussi certains bonus quand vous allez construire certaines parties de votre merveille. Puisqu'en fait, sur les différentes parties, ça va être trois ressources identiques. ou de ressources identiques plus une différente, ou des choses par rapport à la science, etc. Et puis, il y a aussi un truc rigolo, parce que vous allez pouvoir essayer d'avoir le chat en votre possession.
Le chat ?
Oui, il y a un chat.
D'accord.
Là, il y a un chat et il vous permet du coup, à votre tour, quand vous récupérez le chat, en fait c'est une carte chat, donc vous récupérez le petit totem chat, comme en Égypte quoi, le chat était, voilà. et du coup, vous allez pouvoir dans la pioche centrale, en fait regarder la carte qui est face cachée pour voir si elle est intéressante ou pas pour vous. Voilà, c'est un petit pouvoir supplémentaire. Et le chat aussi, je crois que quand on l'a jusqu'à la fin, il rapporte des points de victoire aussi à la fin. Et donc c'est très rigolo, parce qu'on se bat, on se transmet, on veut garder le chat pour soi. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment une version beaucoup plus simple. Ça se joue de 2 à 7 joueurs. Donc voilà, à 7 joueurs, j'ai jamais fait, mais ça doit être sympa. Et les tours se font très vite. On n'a pas besoin de réfléchir 3 plombes, ça se fait très rapidement. C'est à partir de 8 ans, pour vous dire que les règles, ça va. Et donc moins de 30 minutes une partie, et généralement on en fait plus d'une. Voilà, c'est vraiment une très grosse réussite, je le conseille vivement. Même pour des débutants, des gens qui ne sont pas experts en jeu de plateau, c'est très facile pour initier justement au jeu de plateau. Voilà. Donc ça s'appelle Seven Wonders Architect.
Ok, merci Elodie. On passe à la musique et ensuite on parle du forum roleplay que je vous ai choisi, qu'on met à l'honneur cette semaine. On écoute Gérald Gentil avec Le Métro et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et oui, vous êtes très bien sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading en direct le jeudi, en diffusion le vendredi et le dimanche. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter sur le 88.7 FM, sur campus3.fr, sur les applis mobiles gratuites et en DAB+. On passe maintenant au forum roleplay à l'honneur cette semaine. Un forum qui s'appelle Sound of Rain. Et oui, on l'entend beaucoup en ce moment, hein, la pluie.
Ouais.
Un peu trop. Et donc c'est un forum post-apo qui se déroule en 2033 à Malden, une ville fictive dans l'état du Massachusetts aux États-Unis. Et donc qu'est-ce qui se passe? C'est que dans cette ville, un jour il va pleuvoir et la pluie apporte une maladie qui va infecter les gens et les gens vont devenir des zombies. Oui, voilà, en gros. Donc c'est un forum qui a ouvert ses portes le 2 novembre 2023. Ici on est plutôt sur du graphisme clair dans les tons de blanc-gris avec des avatars réels. Et vous allez pouvoir créer un personnage parmi l'un des 3 groupes proposés qui sont en fait les décans dans cette ville de Malden. Vous avez tout d'abord le camp La Colline. C'est un camp situé au sud-ouest de la ville et se trouve à être un camp militaire où la sécurité y prime et où se situe la plus grande réserve de médicaments et des membres de la santé. Le cadre est strict et rigoureux et l'ordre est primordial. Vous avez ce premier camp. Vous avez le deuxième camp qui s'appelle le Refuge, situé au nord-ouest de la ville, dans un ancien stade de football américain. Ils sont protégés par les infrastructures. L'organisation repose sur l'écologie, l'économie et le recyclage des ressources disponibles. Ils sont débrouillards et l'agriculture et l'élevage apportent une suffisance alimentaire. Et enfin, vous avez le dernier camp qui est donc la Tanière, située à l'est de la ville. Ils possèdent la meilleure réserve d'eau potable grâce à leur système de pompage et de filtration. Et leur économie repose sur les explorations, les pillages et le troc. Voilà, vous avez le choix entre ces 3 camps. Et oui, c'est un petit peu un choix difficile. Parce que d'un côté, on a les médicaments, de l'autre, on a la nourriture et de l'autre, l'eau potable. Et comme on a un petit peu besoin des 3... Il va falloir vraiment choisir son camp, hein, c'est bien le cas.
Il va falloir collaborer surtout.
Bah, ou pas, parce qu'il y a des camps qui sont pas très bien, voilà. Au niveau des annexes, vous avez bien sûr la description des groupes, avec également tous les avantages et les inconvénients de chaque camp, et ainsi l'entente aussi entre les camps. Vous avez une chronologie, vous avez une annexe sur la pluie et la maladie, comment tout ça est apparu. Vous avez une annexe sur les infectés. Vous avez une annexe sur les rangs, sur la technologie, Et sur le personnage de Bane, je vous laisse lire si ça vous intéresse. C'est donc un personnage, le personnage du maître du jeu, qui peut intervenir ou pas. Voilà. Et puis, bien sûr, sur ce forum, il y a des events qui sont mis en place par le maître du jeu. Vous avez un Discord qui est disponible et vous pouvez lire, bien sûr, les roleplays qui sont déjà écrits par la communauté. Voilà, donc ça s'appelle Sound of Rain. C'est ouvert depuis le 2 novembre 2023. Il y a 56 membres enregistrés, donc déjà une bonne communauté. Pas de ligne minimum d'écriture, par contre, il est interdit au moins de 16 ans. Mmh. Voilà. Pour aller sur ce forum, il suffit de taper thesoundofrain.forumactif.com ou tout simplement aller sur notre blog loadingradio.wordpress.com et je vous emmène donc dans ce monde post-apo. On écoute un peu de musique et puis ensuite on parle de quoi, Elodie ?
On parle de BD avec les vieux fourneaux.
Voilà,
voilà.
Une super BD, n'est-ce pas ?
Oui, c'est une très bonne BD. C'est bien quand tu dis que tu vas mettre de la musique s'arrête à côté.
Voilà. Oui, on a des répétitions.
Oui, il y a des répétitions à côté, du studio, mais que vous n'entendez pas, je pense.
Normalement, non. On écoute les Dodos avec Werewolf in Love et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et oui, vous êtes toujours sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading, en direct toujours le jeudi, en rediffusion le vendredi et le dimanche. Et Elodie va nous parler BD.
Oui, on va parler du tome 7 des vieux fourneaux qui s'appelle « Chaud comme le climat ».
Déjà tome 7.
Et oui, déjà tome 7 de Wilfried Lupano et Paul Coé. C'est la fête à mon cœur. Le maire a décidé d'organiser un pique-nique de l'amitié et du vivre ensemble. Hélas, le vivre ensemble a du plomb dans l'aile, ou plutôt un pic à brochette dans les fesses. Celle du maire, en l'occurrence, victime d'une agression de Berthe, l'ancienne amante de Mimille. La fête est donc de courte durée, d'autant qu'on apprend bientôt la mort d'Armand Garand-Servier, le patron de l'entreprise qui porte son nom. À son décès s'ajoutent d'ailleurs plusieurs incendies inexpliqués qui ne font qu'attiser les tensions déjà palpables dans le village. De son côté à Paris, Antoine participe à la manifestation du 1er mai où il s'oppose à la violence d'un militant des Black Blocs. Avant de se retrouver à l'hôpital après une charge policière musclée, et il n'est pas au bout de ses peines. L'événement lui vaut également une empoignade avec Pierrot venu lui rendre visite. Un accrochage symbolique qui témoigne presque de l'impossible réconciliation au sein de la grande famille de la gauche. Alors, dans ces vieux fourneaux, eh ben, parce que là on en est donc au tome 7, les derniers tomes je les ai trouvés sympathiques, mais ils ne m'avaient pas vraiment convaincu. Je trouvais qu'on, je sais pas, qu'on perdait quelque chose par rapport au premier tome de la série. Et là, dans ce tome-là, eh ben, c'est peut-être aussi le fait qu'on soit vraiment au sein du village. Eh ben, j'ai retrouvé avec bonheur les ingrédients qu'on pouvait retrouver et qui ont fait le succès de cette série. Alors, je ne saurais pas dire lesquels, c'est un peu des ingrédients mystères. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est à nouveau là. Il y a des querelles politiques, des imbroglios sentimentaux, des rivalités passées, le tout agrémenté de barbecues, d'apéros et de manifs anti-système. Voilà, une bonne façon d'oublier le contexte morose actuel, finalement. Et bah voilà, c'est vraiment, on retourne vraiment presque à la source des vieux fourneaux. Et c'est très plaisant, voilà, d'avoir ces papilles qui sont toujours là au front et prêts à en découdre pour améliorer notre vie, finalement. Je rappelle aussi que les vieux fourneaux, il y a eu un film qui est plutôt pas trop mal réussi, parce que c'est pas facile de réussir des BD en film. Je vais pas citer tous les échecs, mais il y en a beaucoup. Mmh. Hein, surtout la BD franco-belge, j'ai pas grand chose de bien, malheureusement. Et bah là, le film, je trouve qu'il s'en tire plutôt pas mal. Bon, ils ont pas pris n'importe qui pour faire les vieux, hein, aussi. Hein, ils ont pris des acteurs emblématiques que la plupart des Français, en tout cas, aiment bien et qu'on retrouve avec plaisir. Et je crois, il me semble qu'ils veulent en faire un deuxième. Voilà.
D'accord.
Alors, je ne sais pas si ça sera toujours bien collé à la BD ou s'ils vont prendre quelques libertés, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous conseille vivement ce 7e tome et même les 6 précédents parce que ça se lit quand même toujours très bien. Et voilà, c'est sympa d'avoir les aventures de ces vieux. C'est cool d'avoir des héros vieux aussi.
Oui.
Voilà. Bon, qui ont mal aux hanches parfois, mais qui sont là et qui manifestent toujours. Donc voilà, c'est les vieux fourneaux dans leur totalité de Wilfried Lupano et Paul Coé.
D'accord. Et donc on est déjà au 7e tome.
Et on est au 7e tome, oui.
On passe à nouveau à la musique et ensuite on parlera des sorties ciné à 3 cette semaine avec également l'actu tournage. Notre petite rubrique cette semaine, c'est l'histoire d'un jeu vidéo, où je vous parle d'un jeu vidéo des années 80, toujours avec un petit blind test. Je ne sais pas si tu vas te trouver, Elodie. On verra. Et puis on finira par une série japonaise qui n'est pas pour les enfants. C'est ce que j'ai retenu de ce que tu m'as dit. C'est ça ?
Oui, c'est ça. Il y a plutôt des gens nus dedans.
Bon, ok.
Vous comprendrez pourquoi, vu le sujet.
On en parlera en fin d'émission.
Oui, en fin d'émission.
On écoute les Pixies avec Where Is My Mind et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading, hein, toujours en direct le jeudi et en rediffusion le vendredi et le dimanche. Et on passe, on passe maintenant aux sorties ciné à 3 cette semaine. Qu'allez-vous pouvoir voir, je ne sais plus parler, au cinéma. Qu'est-ce que vous pouvez aller voir au cinéma ? Ah bah oui.
Des films,
et des films d'animation comme par exemple Kung Fu Panda 4.
Oui !
Oui, un film d'animation donc réalisé par Mike Mitchell et Stephanie Steen. Après 3 aventures dans lesquelles le guerrier dragon Po a combattu les maîtres du mal les plus redoutables grâce à un courage et des compétences en arts martiaux inégalées, le destin va de nouveau frapper à sa porte pour l'inviter à enfin se reposer. Alors plus précisément, pour être nommé chef spirituel de la Vallée de la Paix. Cela pose quelques problèmes évidents. Premièrement, Po maîtrise aussi bien le leadership spirituel que les régimes. Et deuxièmement, il doit rapidement trouver et entraîner un nouveau guerrier dragon avant de pouvoir profiter des avantages de sa prestigieuse promotion. Pire encore, il est question de l'apparition récente d'une sorcière aussi mal intentionnée que puissante, Caméléon, une lézarde minuscule qui peut se métamorphoser en n'importe quelle créature et ce sans distinction de taille. Voilà, Kung Fu Panda 4, c'est à voir actuellement au CGR à 3. Vous avez le film La Promesse Verte, réalisé par Édouard Bergeon avec Alexandra Lamy et Félix Moati. Pour tenter de sauver son fils Martin, injustement condamné à mort en Indonésie, Carole se lance dans un combat inégal contre les exploitants d'huile de palme responsables de la déforestation et contre les puissants lobbies industriels. La Promesse Verte, donc, c'est à voir également en ce moment au CGR. Il y a le film Le Jeu de la Reine, réalisé par Karim Enouz avec Alicia Vikander et Jude Law. Catherine Parr est la 6e femme du roi Henri VIII, dont les précédentes épouses ont été soit répudiées, soit décapitées, une seule étant décédée à la suite d'une maladie. Alors avec l'aide de ses dames de compagnie, elle tente de déjouer les pièges que lui tendent l'évêque, la cour et le roi. Voilà, Le Jeu de la Reine, c'est à voir actuellement au CGR. Il y a le film Pas de vagues, réalisé par Teddy Lucie Modeste avec François Civil et Shaïn Boumedine. Julien est professeur au collège, jeune et volontaire. Il essaie de créer du lien avec sa classe en prenant sous son aile quelques élèves, dont la timide Leslie. Ce traitement de faveur est mal perçu par certains camarades qui prêtent au professeur d'autres intentions. Julien est accusé de harcèlement, la rumeur se propage. Le professeur et son élève se retrouvent pris chacun dans un engrenage, mais devant un collège qui risque de s'embraser, un seul mot d'ordre, pas de vague. Voilà, pas de vague, c'est à voir actuellement au CGR. Il y a le film Paternel, réalisé par Ronan Tronchot avec Grégory Gadebois et Géraldine Nakache. Dans une petite ville du centre de la France, Simon est un prêtre dévoué à sa paroisse. Au cours d'une messe, Louise, qu'il n'avait pas revue depuis son séminaire il y a des années, refait surface. Elle lui présente Aloé, enfant de 11 ans, dont il est le père. Cette nouvelle va bouleverser son quotidien. Peut-il être un bon prêtre pour ses fidèles et un bon père pour son enfant ? Simon va tenter de convaincre les plus hautes instances de l'Église que sa vocation est compatible avec l'amour paternel. Paternel, c'est à voir actuellement au CGR. Il y a un programme de court-métrage qui s'appelle Les Fées Sorcières, des films d'animation, réalisés par Anne Vrombo, Marion Gémeau et Cédric Icod. Voilà, ça dure environ 40 minutes et c'est pour les petits, mais également les grands. Tout un programme de court-métrage autour des Fées Sorcières. Il y a également le film Au Corneau, une histoire de femme, réalisé par Ryan Camborda avec Siobhan Fernandez. 1971, Espagne franquiste, dans la campagne galicienne, Maria assiste les femmes qui accouchent et plus occasionnellement celles qui ne veulent pas avoir d'enfants. Après avoir tenté d'aider une jeune femme, elle est contrainte de fuir le pays en laissant tout derrière elle. Au cours de son périlleux voyage au Portugal, Maria rencontre la solidarité féminine et se rend compte qu'elle n'est pas seule et qu'elle pourrait enfin retrouver sa liberté. Voilà donc Au Corno, une histoire de femme, c'est à voir également au CGR. Et puis vous avez des avant-premières au CGR avec l'avant-première de SOS Fantôme, La Menace de Glace, réalisée par Gilles Kenan avec Paul Rudd et Carrie Coon. Ce sera dimanche 31 mars à 20h. Également l'avant-première de Du Cobu Passe au Vert, réalisée par Elise Moon avec Elise Moon, Émilie Kahn et Frédéric Bell. Ce sera lundi 1er avril à 10h55 et ce n'est pas un poisson. Et vous avez aussi l'avant-première de Alienoid, Les Protecteurs du Futur, réalisé par Choi Dong-hoon avec Byung Hee-yoon. Ce sera lundi 1er avril à 17h20 en VOST, toujours au CGR. Et puis je vous rappelle que vendredi 29 mars, il y a le marathon Godzilla et Kong avec le film Godzilla vs Kong de 2021 à 19h45, suivi à 22h15 de Godzilla X Kong, le nouvel empire, donc nouveau film sur Godzilla et King Kong. Voilà en ce qui concerne les sorties ciné. Du côté de l'actu tournage, eh bien ça y est, on a des nouvelles de Zorro avec Jean Dujardin. Et oui, en octobre 2022, à la surprise générale, on apprenait qu'une nouvelle série, Zorro, avec Jean Dujardin, était en préparation. Une information surprenante et amusante quand on sait que l'acteur avait déjà incarné le personnage de manière parodique dans la deuxième saison de Platane. Mais cette fois, il ne s'agira pas d'une comédie. Et cette production française compte donc remettre à l'honneur le fameux Diego de la Vega. Une mission qui a été confiée à Benjamin Charbit et Noé Debré, les deux créateurs de cette série, co-scénariste avec Emmanuel Poulain-Arnaud. Alors à part cela, les informations autour du show étaient encore minimes jusqu'à présent. Mais un communiqué de presse donne enfin de nouveaux détails sur Zorro, avec notamment un synopsis et une image du héros à cheval. Alors, ça se passe en 1821, dont Diego de la Vega devient maire de sa bien-aimée ville de Los Angeles, qu'il compte bien faire prospérer. Cependant, la municipalité est confrontée à des problèmes financiers du fait de l'avidité d'un homme d'affaires local, Don Emmanuel, face auquel les pouvoirs du maire s'avèrent insuffisants pour combattre l'injustice. Diego n'a pas fait appel à son double Zorro depuis 20 ans. Mais au nom de l'intérêt général, il n'a plus d'autre choix que de ressortir son masque et son épée. Très vite, Diego va rencontrer des difficultés à concilier sa double identité de Zorro et de mère, ce qui met à rude épreuve son mariage avec Gabriella, qui ignore son secret. Diego pourra-t-il sauver son mariage et sa santé mentale au milieu du chaos ? Voilà. C'est donc un Zorro assez âgé qu'on découvrira dans la série, puisque le personnage reprendra du service après 20 ans d'inactivité. Alors à ses côtés, on retrouvera Audrey Dana, Salvatore Ficarra, André Dussolier, Eric Elmonino et Grégory Gadebois. Ça sera composé de 8 épisodes de 40 minutes et la série a été réalisée par Jean-Baptiste Sorel et Émilie Noblet. Et enfin, une surprise vient du mode de diffusion du show, puisqu'il sera d'abord disponible sur Paramount+, avant d'être diffusé sur France Télévisions. La plateforme de streaming s'est implanté récemment en France et cette première fenêtre de diffusion devrait donc lui être bénéfique pour attirer des abonnés supplémentaires. Il faudra par contre encore patienter avant de pouvoir découvrir Zorro et la date de sortie n'a pas encore été annoncée, mais le communiqué de presse confirme que la série sera lancée d'ici la fin de l'année 2024. Donc très bientôt. Voilà pour Zorro avec Jean Dujardin. Et puis on apprend également que Margot Robbie va produire une adaptation d'un jeu vidéo culte. Le succès phénoménal du film Barbie semble avoir donné des idées à son actrice principale et productrice, Margot Robbie. En effet, la star australienne devrait porter le projet d'une adaptation d'un célèbre jeu vidéo, Les Sims, via sa société de production Lucky Chap, en partenariat avec Electronic Arts. Alors, peu de jeux vidéo ont une popularité et une longévité comparable à celle de la franchise des Sims. Celle-ci a été créée en 2000. Il s'agit d'une simulation de vie dans laquelle les joueurs peuvent se créer des avatars sans d'autres objectifs précis que ceux de développer et faire vivre son personnage dans un univers à peu près réaliste, un peu tout à fait. Alors, Immense succès dès sa création, Les Sims en est à sa 4e version principale. Le jeu compte aujourd'hui des dizaines d'extensions et d'add-ons. Un univers très riche donc, et aux possibilités théoriquement infinies, étant donné les très grandes potentialités de personnalisation des avatars. Alors un terreau parfait pour imaginer les situations les plus drôles comme les plus dramatiques. Et Margot Robbie semble avoir ainsi trouvé le bon filon en s'intéressant à des projets cinématographiques d'envergure en lien avec des marques très puissantes. Barbie a en effet la démonstration éclatante, avec comme un succès inédit au box-office mondial de 1,44 milliard de dollars de recettes. Mattel a été ravi du succès, évidemment. Et cette fois-ci, c'est Electronic Arts qui s'associerait donc avec Margot Robbie pour porter à l'écran un de ses plus grands succès. Donc c'est la scénariste et réalisatrice Kate Herron, surtout connue pour avoir réalisé des épisodes de la série Sex Education pour Netflix et la première saison de Loki pour Disney+, qui serait pour le moment attachée à la réalisation de cette adaptation. Charge à elle donc de prendre la lourde succession de Greta Gerwig, dont la patte autoriste s'est liée avec succès à la machine de guerre commerciale pour Barbie. Voilà. Affaire à suivre donc pour cette production de Margot Robbie sur les Sims.
Je suis pas très hype.
Je sais pas. À voir. J'ai envie de voir. Je suis curieuse de voir comment ils vont tourner ça. Voilà. On verra. On en arrive à notre petite rubrique, et cette semaine c'est l'histoire d'un jeu vidéo, un jeu vidéo des années 80, et comme d'habitude, petit blind test sur la musique du jeu. Je ne sais pas si tu vas deviner vraiment, Elodie, on verra, peut-être que vous allez peut-être deviner.
Par contre, j'ai pas de son dans mon casque.
Ah bah si tu n'as pas de son, ça va pas le faire. Eh bien, comment je peux résoudre ça?
Je sais pas. Écoute, sinon je prends un autre casque ou j'écoute de loin.
Eh bien, je vais te passer mon casque, Elodie, parce que je ne sais pas du coup voilà, ce qui se passe avec les casques. Je te passe mon casque et on va écouter donc cette musique des années...
Je vienne de ton côté, du coup.
Des années 80. Oui, mais sans regarder l'écran. Alors, ça faisait comme ça. Non, ça c'est pas ça. C'était juste le petit début. Voilà. Tu n'as pas trouvé ?
Non, j'ai pas trouvé.
Eh bien, ce petit début, c'était le début de Castlevania.
Ah ouais, j'ai jamais trop joué à ça. Je crois que j'en ai eu un sur Game Gear, mais c'était trop dur.
Oui, c'était pas évident du tout comme...
Puis je trouvais, je sais pas, ça m'intéressait pas trop comme jeu en fait.
Voilà, je vais vous passer la musique aussi du jeu, qui faisait comme ça. Il y avait de la bonne musique quand même dans ce jeu. Voilà, donc Castlevania, jeu vidéo de 1986. Jeu vidéo d'action et de plateforme.
Petite.
Développé et édité par Konami sur Famicom. Et il a été adapté après sur NES, sur borne d'arcade, sur Amiga, sur Commodore 64 et DOS. Et voilà, donc c'est le premier opus de cette série Castlevania, puisqu'après il y en aura beaucoup d'autres
auquel j'ai joué, moi.
Voilà, donc là on est vraiment dans le tout premier, 86. Donc ça se passe en 1791, le comte Dracula ressuscite dans son château en Transylvanie. Il commence à faire régner la peur et la désolation dans les villages voisins. Lorsque le célèbre chasseur de vampires Simon Belmont apprend cela, il se rend au château de Dracula, armé de son fouet, afin de terrasser le comte vampire. Il lui faudra traverser tout le lieu, du portail à la chapelle, en passant par les jardins et la bibliothèque infestée de pièges et de monstres, pour mener sa quête à bien. Voilà, donc Castlevania, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une contraction de castle, château, et Vania, c'est Transylvania, en fait, donc voilà, ça fait Castlevania. C'est un jeu qui n'était pas très simple, je dirais. On est ici sur des tons en dominant de vert et marron. C'était pas très 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 joli visuellement, on va dire le premier.
Non, c'était pas fou.
Voilà. Et par contre, oui, il était plutôt difficile puisque les sauts devaient être un peu millimétrés, vraiment avoir un bon timing pour claquer le fouet en sautant en même temps. Et puis il y a plein de pièces. Vous parcourez 6 stages différents. Et
l'époque où les jeux vidéo étaient difficiles.
C'était difficile.
Avec voilà. Pas forcément de sauvegarde. Pas toujours.
C'est ça, tout à fait. Voilà, moi je me souviens de ce jeu. Oui, effectivement, il n'était pas forcément évident. Mais ça reste quand même un jeu culte. Il a eu énormément de suites pour te dire que pendant près de, je dirais, 15 voire 20 ans après, il y a eu quasiment un jeu Castlevania par an. Voire deux parfois, donc il y a vraiment énormément de suites, pendant au moins 15 ans il y a eu un jeu Castlevania, et d'ailleurs il y a une série également, je crois qui est sur Netflix, Castlevania, je ne l'ai pas vue, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais voilà, donc pourquoi pas essayer ce jeu Castlevania si vous y arrivez. Moi je vous le conseille parce que ça reste comme un jeu totalement culte. Voilà, Castlevania, donc de 1986, ça ne nous rajeunit pas. On écoute un peu de musique, et puis Elodie, tu nous parles donc d'une série japonaise pour adultes.
Oh oui, clairement, j'étais même étonnée de trouver ça sur Netflix.
D'accord, ok.
Alors je suppose que si vous avez un compte enfant, vous ne voyez pas cette série. J'espère en tout cas.
On écoute les Smashing Pumpkins avec Today et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Suite et fin de cette émission Loading, toujours en direct le jeudi et en rediffusion le week-end, le vendredi et le dimanche. Elodie nous parle d'une série japonaise pour adultes.
Pour adultes, qui s'appelle The Naked Director. Donc le réalisateur nu, voilà, ça commence bien.
D'accord.
Nous sommes dans les années 80. Au Japon. Et le réalisateur Toru Muranichi développe des vidéos pornographiques. Il remet ainsi en question la morale japonaise au sujet du sexe. Alors je ne m'attendais pas du tout à trouver ça sur Netflix. Je ne sais plus comment je suis tombée dessus. Je ne sais pas si je suis tombée par hasard dessus ou si genre Devi Mourier en a parlé et du coup par curiosité je suis allée voir. Je ne sais plus. Ça pourrait être typiquement une série que Devi Mourier regarderait. Et du coup, voilà, grandeur et décadence du roi du porno japonais. Avec son thème Agisha, cette série nous en dit beaucoup, finalement, sur la société nippone, ses règles et ses déviances. La première saison, de loin la plus réussie, puisqu'il y en a deux, va s'intéresser vraiment à la création d'un empire du sexe dans un pays où le poids de la tradition se frotte à la frustration. Avec les yakuza derrière qui rôdent aussi, qui essayent de mettre la main basse sur tout ça. Et puis la deuxième saison se consacre plus à l'âge d'or de Muranichi, à un visionnaire de la future consommation de masse qui est devenu le porno de nos jours, puis sa chute inexorable, attendue, et elle est moins intéressante que voilà, la première saison. Alors après c'est une série japonaise donc ils sont un peu exaltés, enfin c'est un peu, je sais pas comment dire, mais dans les séries ou les films japonais ils sont un peu surexcités en fait, ils sont un peu, je sais pas comment expliquer, mais on a l'impression qu'ils surjouent un peu parfois alors que c'est leur façon d'être, en tout cas c'est la façon japonaise de tourner des films ou des séries, donc c'est voilà, faut juste le savoir parce que ça peut paraître un peu bizarre des fois. Et puis cette série donc montre vraiment un pont non négligeable de la culture japonaise. Il faut savoir, je ne savais pas, que ce pays détient le record mondial d'actrices de porno.
D'accord.
Et cette série a quand même pas mal de qualités pour plaire à tous. Alors évidemment, vous allez voir dedans des scènes de sexe, parce que ça parle de pornographie. Alors, enfin, du coup c'est plus érotique parce qu'on voit pas grand chose. On voit des couples nus, mais on ne voit pas de sexe. Par contre, alors j'ai appris des trucs que je ne savais pas. Les magazines là-bas, X, en fait, il faut gratter pour voir ce qui est en dessous.
D'accord.
Voilà. Tu grattes, tu gagnes à tous les coups du coup, mais il faut gratter parce que du coup, en fait, ils sont très forts pour ça, les Japonais, c'est qu'ils font, il y a quelque chose qui est interdit, mais ils trouvent une façon détournée. Parce que du coup, là, on ne le voit pas. Il faut gratter pour voir. Donc, en fait, ce n'est pas de la vraie pornographie, tu vois.
D'accord.
Mais là, on parle surtout donc, de vidéos. Et on voit effectivement comment ils changent. Parce qu'en fait, ils n'ont droit au départ de filmer que des scènes qui sont simulées. Ils n'ont pas le droit de filmer du vrai sexe.
D'accord.
Donc, on voit toute l'évolution là-dessus. Donc, ça reste très intéressant, même s'il y a des scènes très crues. Et moi, j'ai appris plein de choses. C'était vraiment pas inintéressant. Et voilà, ça m'a embarqué, en tout cas, surtout la première saison. J'ai trouvé ça voilà, intéressant d'en apprendre plus. Ça s'appelle The Naked Director, 2 saisons disponibles sur Netflix.
Ok, merci Elodie. Je vous rappelle que nous avons un blog, loadingradio.wordpress.com, où vous pouvez retrouver toutes les choses dont on parle. Et puis, bien sûr, écouter également nos plus de 400 podcasts qui sont en ligne. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, hein, toujours en direct le jeudi. Et puis, bien sûr, nos rediffusions le vendredi et le dimanche. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao, bye bye.